Tout Femme, le magazine des femmes,
mais pas que,
sur Couleur FM
97.1
avec Véronique
et Valérie.
Vous êtes dans l'émission Tout Feu Tout Femme sur Couleur FM 97.1. Cette semaine, la quinzaine pour l'égalité femmes-hommes. Plus de 200 événements vous seront proposés en Rhône-Alpes et le thème est « La liberté a-t-elle un sexe ?». Elle dure donc du 3 au 17 octobre 2015. Très intéressant, n'est-ce pas, vous me direz-vous. Nous allons commencer par écouter une chanson qui nous est absolument indispensable pour nous les femmes. C'est une vraie reconnaissance. Jean Ferrat. La femme est l'avenir de l'homme.
Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison, qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remet à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles, chaque chose enfin partagée. Dans le couple va changer d'une manière irréversible. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.
C'était Jean Ferrat, La femme est l'avenir de l'homme. La liberté, eh bien, c'est le thème de l'édition 2015 de la 5e quinzaine pour l'égalité femmes-hommes. Ce premier principe de la devise républicaine renvoie tant à l'individu qu'au collectif, à la détermination personnelle qu'à l'engagement commun. Alors nous avons, pour cette quinzaine de l'égalité, rencontré des collégiens, des lycéens, et nous avons recueilli leurs témoignages. Et je vous propose, dans un premier temps, d'écouter nos collégiens de classe de quatrième du collège Lamartine à Crémieux. Et puis, je ferai réagir Valérie sur leurs propos, puisque moi, j'ai déjà plus ou moins déjà réagi sur leurs propos.
Attention, quelle réaction.
Bonjour, nous sommes les quatrièmes verts du collège Lamartine de Crémieux. Nous sommes là pour faire une émission en direct avec Florian, Alexandra, Léo, Raphaëla, Thomas, Clara, Antoine et Manon. On va vous parler des préjugés et des stéréotypes sur les femmes et les hommes. Commençons par ce sur les femmes.
Les femmes ont des salaires plus bas que les hommes. Les femmes restent à la maison pendant que les hommes vont travailler.
Ce sont les femmes qui font le ménage. Les femmes ont beaucoup plus de choix vestimentaires.
Les femmes sont plus sensibles et passent leur temps à pleurer. Les femmes conduisent moins bien que les hommes.
Les femmes se critiquent beaucoup plus entre elles. Les femmes mettent plus de temps à se préparer.
Maintenant, passons à ce sur les hommes.
Les hommes passent leur temps devant la télé pendant que les femmes travaillent constamment à la maison. Les hommes montent plus vite en grade.
Les hommes font plus de métiers manuels, les hommes sont plus bagarreurs.
Les hommes sont plus sportifs que les femmes, les hommes ne savent pas faire deux choses à la fois.
Les hommes sont douillets, les hommes sont bordéliques.
Vous croyez vraiment que tout cela est vrai? Même si effectivement, certains stéréotypes et préjugés ont la dent dure, d'autres ne sont que des idées reçues.
Alors Valérie, qu'est-ce que cela t'inspire, ces premiers clichés qui ont été répertoriés par les collégiens, par les enfants, donc qui ont entre 12 et 13 ans?
Des clichés, en fait, quelque part, c'est ce qu'on entend depuis qu'on est tout petit, depuis des décennies. Hein, donc moi, je ne suis pas forcément étonnée de leurs propos. Après, certains sont vrais, d'autres sont faux. Donc là, je vais déjà en mettre un à mal. Les hommes conduisent mieux que les femmes. Non, je suis désolée, statistiquement... Il est prouvé que les femmes conduisent mieux que les hommes, elles ont beaucoup moins d'accidents, et en plus, les accidents qu'elles ont sont moins graves. Donc, vous voyez déjà, pouf, ça y est, on en a fait tomber un. Hein, on peut commencer par ça. Ensuite, que les hommes ne savent pas faire plusieurs choses à la fois, c'est pas vrai non plus. Il y a plein de choses, bien sûr, il y a plein de choses fausses. Alors après, il faudrait savoir ce que les enfants pensent de ça. C'est bien gentil, ça, c'est des clichés qu'ils ont entendus, qu'ils colportent et qu'ils répètent. Mais qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Tu leur as demandé?
Alors justement,
voilà. C'est ça qui m'intrigue, parce que dire ceci, cela, les clichés, bon, on est tous au courant. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière pour eux dans leur pensée? Qu'est-ce qu'ils estiment être vrai? Qu'est-ce qu'ils estiment être faux? Quels sont les clichés qu'on leur a inculqués, entre guillemets?
Alors justement, je vais te donner la réponse, puisqu'ils ont après démonté tous ces clichés.
Merci.
Qu'en est-il des salaires?
Au fil des années, l'écart des salaires entre les hommes et les femmes est moins important, même si dans certains secteurs, l'écart reste présent. Par exemple, dans le secteur hospitalier public, la différence de salaire est de 21,9%, source de l'INSEE.
Et pour ce qui est du travail de la femme?
Il est vrai que les hommes sont plus nombreux à travailler que les femmes, 73,7% contre 65,6%, mais le taux de chômage est sensiblement le même. De plus, ce sont le plus souvent les femmes qui s'arrêtent pour s'occuper des enfants.
Ne me faites pas croire que les hommes font plus le ménage que les femmes et s'occupent plus des enfants.
De plus en plus d'appareils ménagers sont destinés aux hommes grâce au pouvoir de la publicité. Et de plus en plus d'hommes prennent un congé parental du fait de la nouvelle loi qui donne le droit à la femme de ne prendre plus qu'un an et demi de congé, mais complété par son mari d'un an et demi supplémentaire.
D'accord, mais ce sont quand même les femmes qui passent le plus de temps dans la salle de bain. On est d'accord?
Les hommes prennent plus soin d'eux qu'avant, car ils ont plus accès à des produits cosmétiques.
Bon, et pour les vêtements?
Les hommes ont autant de choix vestimentaires que les femmes. En effet, de plus en plus de magasins se créent spécialement pour les hommes, tels que Devred, Célio, Jules...
Ne me dites pas que les hommes pleurent autant que les femmes.
Les hommes sont autant sensibles que les femmes, car ils ont peut-être plus de fierté. On dit toujours à un garçon « ne pleure pas, tu es un homme ». Donc en leur disant ça petit, cela devient une habitude.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que femme au volant, mort au tournant.
Non mais attends, c'est complètement faux. Au vu des chiffres de la sécurité routière, on peut dire que les hommes conduisent beaucoup moins bien que les femmes. En effet, et c'est de source officielle, sur le site de la sécurité routière, les trois quarts des accidents ont été provoqués par vous les hommes.
Bon allez, peut-être qu'on a des difficultés pour manœuvrer, mais en attendant, nous, on sait faire deux choses à la fois.
Dans beaucoup de professions, il nous est montré que les hommes savent faire plusieurs choses à la fois, comme le métier de cuisinier ou de mécanicien. Et bien d'autres encore.
Enfin, pour finir, vous les filles, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que vous transpirez beaucoup pour le sport.
Les femmes sont tout autant sportives que les hommes. En effet, il suffit de regarder lors des Jeux Olympiques, ou même maintenant, des équipes de football féminines sont de plus en plus mises à l'honneur, comme avec l'équipe de l'OL.
On peut en conclure que même si certains préjugés ou stéréotypes sont vrais, grâce au féminisme et à l'évolution de notre société, la place des hommes et des femmes dans notre société s'est mise au même niveau.
Alors, quelle est maintenant ta réaction par rapport à ce que les enfants ont dit? Parce qu'en fait, ils ont fait l'argumentaire et le contre-argumentaire.
Tout à fait. Mais là,
ça rassure.
Ça rassure, mais je constate quand même que j'avais raison hein, sur l'histoire des hommes et des femmes au volant. J'avais pas d'idée préconçue, mais le résultat était bon. Donc non, effectivement, mais après, ils prennent des chiffres. Donc moi, j'aimerais essayer de savoir vraiment ce qu'au fond d'eux, ils pensent. Après, c'est peut-être un petit peu plus délicat dans les collèges. En tous les cas, c'est vrai que l'écart de salaire, il reste présent. Toutefois, je mesurerai un peu les choses parce que je me dis qu'aujourd'hui, les salaires, c'est soit on est tous au même salaire, bien souvent, quand on est employé, homme, femme, ouvrier, en tous les cas. Après, que l'écart de salaire se fasse au niveau du cadre ou du cadre moyen, là, effectivement, je pense qu'il y a une différence fondamentale. Je suis pas sûre qu'elle le soit au niveau de l'ouvrier et de l'employé premier niveau. Le travail, une femme qui travaille moins... Oui, peut-être, mais pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Les femmes, en général, ont beaucoup de charges. Hein, même si les hommes aimeraient peut-être s'investir un petit peu plus, force est de reconnaître qu'ils terminent généralement plus tard, donc ils vont rarement chercher les enfants, ils s'occupent rarement de l'intendance. Alors moi, je ne suis pas une féministe, hein, je suis juste quelqu'un qui estime qu'effectivement il faut une égalité homme-femme. Donc je comprends qu'un homme ne puisse pas non plus tout le temps prendre le rôle d'une mère. Parce que donc peut-être que les enfants non plus, dans leur inconscient, ne prendraient pas non plus le rôle du père. Si le père prenait vraiment le rôle de la mère, comment est-ce que l'enfant réagirait ? Ce serait intéressant aussi de voir un petit peu ça.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on parle de famille avec un père et une mère.
Voilà.
Et là, j'ai commencé à travailler avec des enfants du lycée Gambetta, où effectivement, chez les jeunes lycéens, il y avait une famille sur deux qui était monoparentale. Ce qui fait que la mère, elle assume tous les rôles, y compris le rôle d'administratif, consolatrice, disputrice. Alors, je vais inventer des mots, là.
Ah, oui,
mais elle accumule tous les rôles. Donc, effectivement, là, l'égalité...
On nous a donné l'égalité quelque part, sur le papier, avec beaucoup d'inconvénients et peu d'avantages. Voilà. C'est ce que moi j'en tire en tous les cas, parce qu'effectivement, lorsqu'on se retrouve dans des situations de famille monoparentale, c'est très souvent loin d'être rose pour la mère. Effectivement, elle doit tout assumer. Donc le ménage, rares sont les enfants qui mettent la main à la pâte, hein, force est de le constater. Quand on a des ados à la maison, on peut pas dire, et ça je pense que c'est à peu près dans toutes les familles pareil, on peut pas dire qu'ils soient d'une grande aide, sauf si on les prive de ceci ou de cela, quoi. Hein. Donc après, le congé parental, c'est aussi un autre souci. J'aimerais savoir aujourd'hui où en est le pourcentage d'hommes qui prennent réellement ce congé parental, et si les hommes en ont vraiment l'envie. Parce que je pense que c'est pas encore rentré dans les mœurs, non plus c'est pas encore rentré dans leur esprit qu'un homme peut rester à la maison. Je crois qu'un homme aurait certainement beaucoup plus peur de perdre le fait de monter en grade,
la promotion.
Voilà, sa promotion, plutôt qu'une femme. Ça, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les hommes prennent moins de congés parentaux. Après, la femme dans la salle de bain. Ben oui, mais un homme, il aime bien qu'une femme, elle soit jolie, coquette, etc. Si on n'est pas coquette, on nous en guirlande.
Et puis on le sait, nos ados de 16 et plus, ils restent très longtemps
très,
sous la douche.
Très longtemps, même bien après, hein. Même quand ils en ont 20, 25, je ne citerai pas de nom. Donc effectivement, je pense que là, de ce côté-là, un homme passe autant de temps dans la salle de bain qu'une femme. Il le passe probablement différemment, mais à mon avis, il en passe autant. Les vêtements, bah c'est tant mieux qu'il y ait des boutiques qui s'ouvrent pour les hommes, qu'on commence à avoir une mode homme qui soit un petit peu plus aussi à la portée de tout le monde et pas simplement à la portée des hommes cadres. Hein. C'est ce que je retiens dans cette démarche-là. Après, en ce qui concerne les pleurs et la sensibilité, je pense qu'on n'est pas dans un monde où on nous autorise tout petit à pleurer, même qu'on soit homme ou qu'on soit femme, et même après, je veux dire, pleurer, dans notre société, c'est signe de faiblesse. Hein. Bien souvent, c'est comme ça qu'on nous le renvoie. Tu pleures, t'es une mauviette, que tu sois une femme ou que tu sois un homme. Et je pense que c'est là où il va falloir travailler au corps l'attitude des gens face au sentiment qu'on peut éprouver. On n'a pas le droit d'éprouver des sentiments dans cette société parce que éprouver des sentiments, c'est signe de faiblesse. Et peut-être que, à mon avis, c'est là où le bât blesse. Faire comprendre aux enfants que être sensible n'est pas anormal, pleurer n'est pas anormal, aimer, rire, jouer n'est pas anormal. Tout ça, on a le droit d'exprimer ses sentiments.
Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause musicale, justement. On va faire pleurer dans les chaumières, on va passer France Gall, oui. Si maman si.
Ah oui,
allez,
oulala.
On se fait plaisir.
Sortez les mouchoirs.
Et puis tout de suite après, on va retrouver cette fois-ci des lycéens et on va voir une approche différente.
La différence, ouais, j'imagine.
Et on est sur Couleur FM 97.1, notre magazine Tout Feu, Tout Femme, et je suis en compagnie de Valérie.
Mon cœur a déménagé. Mes vacances, c'est toujours Paris. Mes projets, c'est continuer. Mes amours, c'est inventer. Si maman, si. Si peu habile que demain, le bonheur passera peut-être sans que je sache le reconnaître. Si maman, si, si maman, si, maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman, si, mais mon avenir reste gris.
C'était France Gall, le titre « Si maman si » et tout de suite on écoute les élèves du lycée Loiselet à Bourgoin-Jallieu en terminale S. Ils réagissent à la quinzaine pour l'égalité femmes-hommes qui est organisée par la région Rhône-Alpes du 3 au 17 octobre 2015. Le thème « La liberté a-t-elle un sexe ?» Qu'est-ce que représente pour vous l'égalité femmes-hommes ? Léa.
Bah, que les femmes ne soient plus vraiment discriminées par l'homme, parce qu'on voit souvent que les femmes ont plutôt un rôle de ménagère ou de femme au foyer, alors que les hommes, c'est plutôt celui qui ramène le pain à la maison.
Younes.
Bah, moi, je rejoins bien l'avis de Léa. Pour moi, c'est important justement que les femmes elles soient égales à l'homme, que ce soit dans plusieurs domaines, que ce soit l'emploi, les tâches ménagères ou même dans la vie de tous les jours.
Alors, on a vu dans la presse aujourd'hui que sur les manuels scolaires, on mettait un papa qui partait au travail, une maman qui reste à la maison. Est-ce que pour vous, jeunes, est-ce que c'est concevable qu'on représente ainsi la cellule familiale ?
Non, pour moi, c'est pas concevable parce que les élèves de primaire, c'est ceux qui vont être la relève de plus tard. Donc, c'est important pour eux qu'ils partent sur de bonnes bases sans avoir ces clichés directement.
Je rejoins encore une fois l'avis de Léa. Je pense qu'exactement comme elle, c'est important de pas influencer les jeunes, de pas leur donner une idée préconçue, par exemple, du couple, du ménage, et de leur laisser, entre guillemets, à eux d'organiser ça tout en respectant encore une fois l'égalité homme-femme.
Est-ce que vous pensez que dans notre société, les libertés sont les mêmes pour les femmes que pour les hommes?
Je pense que, je vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'au niveau de la loi, oui. Après, dans la vie de tous les jours, la manière dont c'est appliqué, je pense qu'au niveau de l'emploi et du salaire et aussi des postes proposés, je pense que justement cette loi n'est pas tout le temps respectée.
Léa, quand vous regardez par exemple la télévision et que vous voyez des publicités, est-ce que des fois cela ne vous provoque pas quelques réactions?
La femme est souvent, pour ce qui est des pubs de par exemple pour la cuisine ou les ustensiles de cuisine ou même pour la beauté ou des choses comme ça, c'est quand même une image, enfin pas de jouet, mais enfin elle va être belle, bien, tout ça, alors que c'est pas forcément toujours le cas, quoi. Elle est vachement, encore une fois, c'est une image qu'on lui donne.
Elle est utilisée pour vendre un produit. Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est normal d'être obligé de mettre une belle femme, on va le dire correctement, pour vendre par exemple une voiture, un aspirateur ou toute autre chose?
Après, d'un point de vue marketing, je comprends le fait d'utiliser quelque chose de joli pour attirer le consommateur, mais il ne faut pas que ça devienne systématique, pas tout le temps mettre la même image de la femme, bien, belle, jolie, grande, mince, fine, blonde. Ce serait bien de montrer... Si on veut mettre une femme, plusieurs femmes ou même des hommes, enfin, je vois pas en quoi le fait de mettre une femme spécifiquement, ça serait nécessaire alors qu'on pourrait mettre un homme ou même juste mettre la voiture.
Alors Léa, vous savez que depuis un certain temps maintenant, il est obligatoire de dire madame au lieu de mademoiselle à toutes les femmes quand on les interpelle. Est-ce que pour vous, jeune lycéenne de 17 ans, vous êtes heurtée par le fait qu'on puisse vous dire madame?
Je sais pas, je trouve ça, limite ça me fait pas grand chose. Je veux dire qu'on m'appelle madame ou mademoiselle, c'est la même chose. Je veux dire, un homme, qu'il ait mon âge ou qu'il soit adulte, on va l'appeler monsieur. Donc une femme, qu'on l'appelle madame, ça rejoint le... Enfin, ça me choque pas.
En politique, la parité est de mise en France. Qu'est-ce que vous en pensez?
Dans l'idée, c'est quelque chose de bien de respecter la parité, ou au moins de l'instaurer. Mais dans la politique, par exemple, je pense pas que ce soit une très bonne idée, puisque c'est un domaine où on élit les personnes pour leurs pensées, pour leurs actes. Donc, et il faudrait juste regarder les propositions et pas la personne qui est derrière, que ce soit une femme, un homme, une personne âgée ou jeune, ou même l'origine.
Alors pour conclure cet entretien, quelles seraient pour vous les améliorations à apporter dans l'égalité homme-femme, puisqu'on sait qu'on a fait des très gros progrès, mais qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, notamment peut-être effectivement dans des pays étrangers. En France, on évolue, même si des fois on sent quelques retours en arrière. Quelles seraient pour vous les choses très importantes pour vous, jeune femme du futur?
D'éviter tous ces clichés qu'on entame dès le plus jeune âge, puisque comme l'exemple des manuels scolaires, mais aussi surtout dans le travail, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le travail c'est quand même quelque chose qui compte énormément, et une femme a autant les capacités qu'un homme d'être directrice ou PDG, et la même chose pour les salaires. Donc je pense que c'est déjà quelque chose d'important, puisque je pense qu'à la maison, l'homme s'investit de plus en plus. On voit de plus en plus d'hommes au foyer ou d'hommes qui s'investissent dans la cuisine ou dans le ménage. Mais je pense que c'est surtout au niveau du travail qu'il y a énormément de progrès à faire.
Je suis d'accord avec Léa, c'est au niveau du travail, ça va être très important. Mais je pense aussi que, je pense qu'en fait, c'est surtout véhiculer la bonne image de la femme, par exemple, dans ce cas-là, et éviter justement d'influencer les jeunes, donc plus dans les écoles, d'expliquer aux enfants, aux jeunes, qu'est-ce que la parité, en quoi c'est bien, et en quoi, même si on, comment dire, si on n'est pas d'accord, c'est quelque chose auquel faut réfléchir. Parce que avec la publicité par exemple, ça devient presque automatique chez certains, on réfléchit même pas, ça devient normal quoi, il faut pas que ça le soit.
Dernière question, dans vos familles, l'égalité homme-femme, elle existe ?
Oui, je pense que oui, parce que mon père s'est toujours autant occupé de nous que ce que ma mère a pu s'occuper, donc je vois pas vraiment d'inégalité au sein de ma famille.
C'est donc une condition sine qua non, c'est qu'on commence déjà à travailler cette thématique dans la famille ?
Oui, ça commence là, parce que avant que ce soit dans le cadre public, c'est dans le cadre privé, c'est d'abord entre le mari et la femme de régler cette affaire, et je pense que c'est le point de départ de toute cette histoire.
Alors on se rend compte Valérie, que le discours des plus grands, hein, ce sont des terminales, donc ils ont plutôt entre 16, 17, voire 18 ans, est tout à fait différent de nos jeunes de collège.
Complètement.
Et quand on a eu la discussion avec les professeurs de collège, ils nous ont dit qu'en fait, les enfants, égalité filles-garçons, jusqu'en classe de 5e, 4e, pour eux, il n'y avait pas de problème. On ne les distinguait pas. Et puis, il y avait un pic en 3e, où les enfants commençaient à vouloir s'identifier, notamment les garçons. Et là, ils avaient leur côté en 3e un petit peu macho. Et après, ça redescendait en arrivant au lycée.
C'est presque, je dirais, logique, parce qu'en fait, à partir de 15-16 ans, le garçon commence à devenir un petit homme, beaucoup plus que quand il a 12-13 ans, où son corps est en train de changer, il se demande ce qui lui arrive. Arrivé à 15-16 ans, il est, j'allais dire, un petit peu mature physiquement et un petit peu plus psychiquement. Donc forcément, le démarrage est là. Moi, j'ai noté plusieurs choses. La première, je trouvais judicieux leur réflexion concernant la famille. Effectivement, le point de départ, ça reste la famille. Si tout petit, on n'éduque pas l'enfant à devenir un enfant qui, pour lui, dans la normale, l'égalité homme-femme est là, forcément, par la suite, ça le suivra, puisque il est complètement influencé par les publicités, comme ils l'ont dit très justement. Hein. On se retrouve avec des publicités qui, pour faire vendre, nous montrent des choses qui ne sont absolument pas la réalité. Et ça, là encore une fois, ils l'ont bien fait remonter cette problématique. Pourquoi ? Parce que on voit des jeunes femmes belles, jolies, fines, toutes retouchées. Est-ce que c'est comme ça dans la vie ? Non. Il y en a qui ont cette chance-là, mais malheureusement, on aimerait bien être toute bien fichue, faire du 36-38, ne pas avoir de rides, ne pas avoir de défauts sur le visage. Mais c'est pas ça la vraie vie. Donc déjà, c'est bien qu'ils aient déjà perçu cette différence et compris déjà cette difficulté. Après, on parlait de l'évolution aussi, que l'homme maintenant était beaucoup plus présent dans la famille, hein, c'est ce qu'ils évoquaient un petit peu. Je pense que peut-être qu'avec l'histoire du temps partiel ou des temps décalés que l'on rencontre de plus en plus souvent au niveau du travail pour les parents. De plus en plus de gens travaillent en horaire décalé, de plus en plus de gens travaillent le samedi et le dimanche, de plus de gens travaillent aussi à temps partiel. Peut-être que ça va être une forme de mutation et que dans le grand malheur que c'est, parce que je trouve que c'est pas une avancée que de travailler dans ces conditions-là, mais peut-être que ça va apporter au sein des familles un partage des tâches qu'on n'aurait pas eu si l'homme restait à travailler de 9h du matin jusqu'à 8h et la femme à temps partiel. Donc il y a peut-être cette note d'optimisme à mettre en exergue par rapport à ce côté négatif de ce temps non choisi au niveau du travail. Après, ils nous ont parlé de la parité politique. Ils ont bien constaté pour eux qu'il y avait effectivement une parité. En ce qui me concerne, je pense que c'est un gros leurre, qu'effectivement, on a des femmes qui sont en politique, mais qu'elles sont bien souvent manipulées, ou en tous les cas, très souvent malmenées. On l'a vu il n'y a pas encore si longtemps. Quels que soient les propos qu'elles disent, moi, je ne suis pas en train de parler si ce qui a été dit ou est justifié ou pas justifié. Ce que je retiens, c'est l'attitude des hommes par rapport aux propos qu'une femme peut tenir. Si un homme avait tenu les mêmes propos, on n'en aurait certainement pas fait la même chose. Donc la parité, pour moi, c'est un leurre. D'ailleurs, il parlait de liste neutre. Oui, alors de la même façon qu'on a fait un CV neutre, sans la photo, sans le nom, etc., ce serait rigolo qu'on fasse une fiche, une liste politique, sans mettre les photos, sans mettre les âges, sans rien.
Et sans mettre les prénoms, comme ça on ne saurait pas si c'est un homme ou une femme. Et
voilà.
Ça serait intéressant de voir le programme que chaque personne défend.
Voilà. Hein,
qu'on lance l'idée.
On va lancer l'idée. Allez, des petites listes neutres là, parce que très franchement, non, en politique, je suis désolée de les décevoir, mais c'est, à mon sens, c'est vraiment un leurre. On a aucune parité, sauf comme ça, à l'image et au papier, oui, c'est tout. Mais en tous les cas, pas dans la discussion. J'ai noté aussi le madame ou mademoiselle. On en avait déjà parlé l'autre jour quand on avait fait une émission avec la dame qui faisait partie du groupe féministe. Elle était effectivement contre le fait qu'on appelle mademoiselle les dames. Moi, ça ne me choque pas. Je trouve presque ça joli d'appeler une jeune fille mademoiselle. Après tout, madame, c'est la mettre tout de suite dans la réalité de la vie et la basculer dans l'adulte. Laissons-lui le temps d'éclore à cette jolie fleur et puis elle aura le temps de se faire appeler madame.
Alors justement, c'est un sondage que j'ai fait auprès aussi bien des collégiens que des lycéens et les avis étaient très partagés. Mmh. J'ai eu des jeunes filles qui m'ont dit « Moi, je veux qu'on continue à m'appeler mademoiselle parce que madame, c'est que je suis déjà vieille. »
Exactement.
Alors je l'ai regardée. Elle a souri, vous imaginez pourquoi, parce qu'effectivement, je me suis sentie un petit peu visée. Et puis ensuite, j'en ai eu d'autres qui m'ont dit, moi, je veux qu'on m'appelle madame, parce qu'elles ont défendu leur point de vue en disant que c'est une reconnaissance qu'elles sont une femme et non pas une mademoiselle, avec ce que ça suppose sur leur virginité, et qu'elles étaient pour qu'on recommence et qu'on appelle, effectivement, qu'on reparte à des valeurs anciennes en disant « damoiseau » et « damoiselle ». Et madame et monsieur. Donc j'ai eu effectivement toutes les versions. Et les plus offusquées, c'était évidemment les petites collégiennes qui ne voyaient pas qu'on les appelle madame. Quand je me suis amusée pendant l'interview à les appeler madame, ça les a fait sourire.
Oui, alors on va nous dire après, on peut nous dire oui, c'est parce que vous êtes formatée, etc. Mais en même temps, lorsque moi je m'adresse à des jeunes gens, bien souvent je ne dis pas bonjour monsieur, je dis bonjour jeune homme. Parce que, à mon avis, il faut faire. Oui, il y a une différence à faire. Un jeune homme de 15-16 ans, c'est pas un monsieur de 30-40 ans, c'est tout. Enfin, après, oui, peut-être que je suis formatée, ça c'est très probable, mais bon, voilà, je suis un peu moins souple sur ce thème-là, j'avoue.
Et pour avoir discuté avec des féministes, elles sont vraiment, et puis on avait eu le cas dans notre interview qu'on avait réalisé avec cette dame, elle était vraiment pour le madame et le monsieur. Alors ce que je propose, c'est qu'on fait une petite pause musicale et puis on continue après à débattre sur cette thématique.
Tout à fait.
Alors cette fois-ci, comme pause musicale, passer une chanson qui n'est pas très gaie, mais justement on pourra peut-être réagir dessus. C'est une chanson des Tite Nacelle, ça s'appelle Chanson Cri et c'est une reprise de Georges Moustaki.
Ah, oui. Tite Nacelle, c'est un super groupe que je vous conseille de ne surtout pas louper quand ils sont en tournée.
Et quand ils passent près de chez vous.
Et moi, je leur fais un petit coucou.
Et ils ont sorti un album qui est formidable, qui s'appelle Soyons fous. Et comme on est folle,
et
ça nous va très bien.
Complètement folle, alors allez-y les petites nacelles.
Allez, et puis vous êtes toujours sur Couleur FM 97.1 dans votre magazine Tout Feu, Tout Femme. Et on écoute les Tite Nacelle.
J'envisage l'avenir en peinture, figé ton visage sur le mur. Je suis fou. Je prends les clés de ton antre, je prends tout ce qui est bon à prendre. Je prends tout. Je dévalise tes images, je prends ton cœur pour marque-page, mon ange. On n'a pas le temps de se donner autant pour tourner toutes les pages. Je défragmente les pictures figurantes dans mes lectures. Et tu t'en fous. Je pille tes secrets dans tes rêves. Même les plus filles, même si t'en crèves, je m'en fous. Je dévalise tes images, je prends ton cœur pour marque-page, mon ange. On n'a pas le temps de se donner autant pour tourner toutes les pages. À moi les couvertures, égoïste par nature, je l'avoue. Je m'approprie ton amour à l'infini et sans retour. Je suis nous. Je dévalue
analyse tes images. Je prends ton cœur pour marque-page, mon ange. On n'a plus le temps, mon ange, de se donner autant pour tourner toutes les pages ensemble.
C'était Chanson Cri, une reprise de Georges Moustaki interprétée par les Tites Nacelles. Alors effectivement, ce n'était pas une chanson très gaie, mais ça fait partie aussi des choses malheureusement que subissent les femmes, le viol. Oui. Et on sait que ça reste très compliqué pour aller poser une déposition, pour ne pas se faire accuser. Alors on en avait parlé aussi dans une émission.
C'est le parcours du combattant.
C'est le parcours du combattant dans le sens où... est-ce que vous n'avez pas
aguiché,
on en parlait avec Mélissa en disant est-ce que vous n'avez pas mis une jupe trop courte, est-ce que vous n'êtes pas trop maquillée, un trop gros décolleté. Donc là aussi, ce sont des choses qui sont assez scandaleuses.
Je l'ai vu encore il n'y a pas très longtemps dans Bourgoin-Jallieu, lorsque je marchais, j'avais une jeune fille qui était devant moi, qui était très jolie, qui était bien habillée, rien de provoquant. Elle marche dans la rue, deux garçons la croisent, elle s'est fait insulter, siffler et tout. Moi, je suis désolée, mais ça, c'est quelque chose que je peux pas accepter. Enfin, franchement, il faut éduquer les garçons et leur faire comprendre que ça ne se fait pas. Donc là, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut ancrer dès le plus jeune âge, le respect de l'autre, de la jeune femme qui est dans la rue et qui a le droit de porter sa jupe, d'être élégante, d'être féminine. Je vois pas en quoi ça...
Alors, il faut rappeler quand même que la loi sur le viol, qui la redéfinit comme une agression sexuelle, ne date que de 1980. Hein. Mmh. C'est-à-dire que là aussi, on est très, très... Enfin, c'était pas si ancien que ça, où on reconnaît la chose. On sait aussi que la liberté de la femme de disposer librement de son corps, c'est pas si récent non plus.
Il y en a beaucoup d'hommes au Sénat, au Parlement, hein. C'est ça aussi. Hein. Voilà. C'est pas leur priorité. Hein.
Oui, et puis quand c'était aussi une discussion, j'ai assisté à une conférence qui était très intéressante de Françoise Héritier, qui est une anthropologue, et elle expliquait effectivement qu'il faudrait apprendre à nos enfants, à nos jeunes filles, à se réapproprier la rue, et notamment le regard des hommes et des femmes sur le corps, c'est-à-dire qu'on ne doit plus avoir honte de se mettre dans telle ou telle tenue vestimentaire, et ça aussi, il va vraiment falloir qu'on travaille là-dessus, et le droit aussi, c'est pas parce qu'on est féministe qu'on n'a pas le droit à la féminité, parce que souvent les féministes, elles auraient tendance à dire qu'il faut être des garçons manqués, on a le droit d'être féminine.
Moi, je revendique le fait d'aimer me maquiller, me pomponner, essayer d'être agréable à l'œil pour l'extérieur et à moi-même. Voilà, je ne vois pas où ça peut choquer d'être élégante et...
Voilà, c'est un vaste sujet là aussi et on a tous, enfin moi personnellement, j'ai toujours des réactions qui me font bondir moi-même et qui font bien évidemment bondir ma fille quand je la regarde et que je lui dis « tu crois pas que tu sors un petit peu court vêtu ?» Et là, t'imagines
les
bien...
Yeux, les revolver. Yeux.
Voilà, c'est... non mais oh ah ouais. Bon, on est au 21e siècle, effectivement, et puis on a en parallèle...
Mais en même temps, pardon, je te coupe, mais en même temps, si on dit ça, c'est parce qu'on sait très bien comment ça se passe à l'extérieur et qu'on a peur. Et c'est pas parce qu'on est... psychologiquement imprimé par ça, mais c'est une réalité. C'est quand même une réalité. C'est pas un leurre, cette peur.
Et puis, en parallèle, on a donc nos femmes, nos filles qui voudraient s'habiller court vêtues. Et puis, en face, on a la recrudescence des femmes voilées, des femmes qui sont habillées jusqu'en bas.
Voilà, ça, c'est un paradoxe aussi. Ouais.
Et là, on est dans un paradoxe dans notre société qui peut brouiller un petit peu les cartes pour beaucoup de jeunes qui sont... qui sont pas encore...
Je voulais pas aborder le thème, mais c'est vrai. Moi, ça me choque. On doit, à ce moment-là, on tolère tout pour tout le monde. Chacun a le droit de s'habiller comme il veut. Voilà, mais c'est pas bien pour les uns et pas bien pour les autres. Donc il y a beaucoup de boulot à faire de ce côté-là, ouais. Hein, et c'est pas que sur les bancs. Les parents ne sont pas les premiers responsables, hein, malgré tout. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'on arrête aussi de culpabiliser toujours les parents pour tout, parce que in fine, on constate quand même que le parent est responsable, d'après les études, de beaucoup de choses. Or, moi, je suis quand même frappé qu'on ne bannisse toujours pas de la publicité, et comme les jeunes en parlaient d'ailleurs, tous ces modèles super bien faits qui sont presque en train de faire, excuse-moi de tenir ce propos-là, mais presque en train de faire l'amour à un aspirateur ou l'amour à une voiture, hein, c'est un petit peu ça finalement. Donc à un moment donné, imposons aussi aux publicitaires de limiter ces clichés dans leur publicité. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire une loi sur ça, messieurs les sénateurs, messieurs les parlementaires? Pourquoi est-ce que vous ne feriez pas une loi qui irait justement attendre vers les publicitaires pour éviter... Parce que c'est quand même des images que les enfants voient à longueur de journée. Les enfants sont tout le temps sur les écrans. La publicité, c'est sur leur ordinateur, c'est à la télé, c'est dans les magazines, c'est
partout.
Sur les abribus. Donc est-ce qu'on n'a pas là une vraie responsabilité? Est-ce que nos politiciens, dans ce cas-là, n'ont pas une vraie responsabilité à prendre par rapport à ça?
On a aussi, nous, une responsabilité. Il faut aussi que nous, femmes, nous soyons toujours militantes, y compris dans notre foyer, vis-à-vis de nos jeunes hommes. Parce que c'est aussi à nous de décrypter, de casser tous ces préjugés. Parce que quand on regarde un petit peu le fonctionnement de notre société, le système oblige toujours l'homme à des comportements machos. Quand tu regardes autour de toi toute la publicité, tout ce qui s'y passe, on pousse nos jeunes hommes quand même
à
se révéler.
Voilà,
nous sommes les hommes. Donc effectivement, on a beaucoup d'avancées, mais attention, il faut rester toujours très vigilant, puisqu'on a aussi des gens qui reviennent en arrière, qui veulent revenir sur l'IVG, qui ont des valeurs conservatistes. Il faut faire très attention aussi. Et là, c'est à nous aussi, en tant que parents, à faire très attention à cette éducation.
On parlait aussi des manuels scolaires. Hein. Là encore, c'est vrai qu'il y a une polémique qui s'est mise en marche. Et je pense, à juste titre, dans les manuels scolaires, effectivement, la femme fait à manger, la femme chante la chanson « La berceuse à l'enfant », etc. Voilà, là aussi, il faut commencer à faire changer. Alors, les jeunes le disaient, hein, ils sont étonnés parce que... eux trouvent par contre que la femme a un rôle ménager et l'homme au travail à part égale, d'après eux. Mais dans cette cellule familiale, comme ils le disent très bien, la cellule familiale maintenant, c'est plus que le père et la mère, on l'a évoqué, c'est la monoparentalité aussi, mais c'est aussi l'homosexualité au sein d'un couple aussi. Donc ça aussi, on ne le voit pas non plus dans les manuels scolaires. Moi, je suis désolée, mais ça fait partie de notre vie courante aujourd'hui, toutes ces différences qu'il peut y avoir. Donc pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas non plus dans les livres scolaires? C'est à partir de la petite école. Donc, alors après, il y a une façon d'en parler, bien évidemment. Mais voilà, je trouve qu'on est encore dans le cliché au niveau des manuels scolaires et il faut en sortir. Et je suis choquée d'ailleurs qu'on n'en soit pas sorti, parce que je pensais vraiment que Madame Najat Vallaud-Belkacem allait arriver à comment dirais-je.
Mais c'est un travail de titan, hein. C'est qu'il y a vraiment
doute,
un grand
pauvre
nettoyage à faire.
Oh ouais, parce que... je me doute, ça, elle a dû batailler. Mais déjà, sur ça, au moins, ça aurait été intéressant que ça bouge.
Surtout à quel était avant au ministère de l'égalité femmes-hommes. Et, voilà. Et là, ce qui m'a choquée aussi, c'est qu'on parlait effectivement de ce manuel scolaire où il y avait une maman qui restait à la maison et le papa qui partait au travail. Mais alors, il y avait encore pire. Il y avait un petit garçon africain à qui on lui disait « Nettoie-toi le visage, t'es noir, t'as le visage sale.
Ouais. » Alors là, c'était peut-être pour la différence de couleur, ça
alors
doit être
je,
ça, non
je sais pas, mais apparemment, c'est quelque chose qui a choqué aussi pas mal de gens. Ouais. Voilà, donc faire attention dans tout ce que... Quand on écrit l'histoire, les livres d'histoire, les manuels scolaires, que ce soit pour les enfants des écoles primaires, des collèges ou des lycées, attention à ce qu'on met dedans. Et puis attention, là, c'est ce que disait aussi une documentaliste. Elle est toujours dans le cliché, dans sa bibliothèque, dans son collège. Il y a les livres pour les chevaux, pour les chats, mmh. qui sont roses, qui sont pour mmh. les filles. Puis il y a les livres sur les voitures, qui sont pour les garçons, qui sont en bleu. On est encore dans ce cliché-là.
Oui, mais comme, enfin, moi, je discutais avec une somatopathe ce matin, justement, et elle me disait, tout est ancré en nous depuis des générations. Et donc, on porte aussi le poids de tout ce que nos parents ont vécu. Et ça, on ne peut pas s'en soustraire. Il faut, bon, bien sûr, il y a des méthodes, d'ailleurs en somatopathie, qui sont très intéressantes, mais on subit l'éducation de nos grands-mères, l'éducation de nos arrière-grands-mères, et tout ça, on porte notre poids au fil du temps. Donc si à un moment donné, on n'a pas la possibilité de lâcher tout ça, eh ben on continue avec, et c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est lâcher un petit peu du lest par rapport à tout ça. Mais je ne crois pas que ce soit faisable tant que ces messieurs ne prendront pas conscience que, puisqu'ils ont la majorité au Parlement et au Sénat, c'est à eux d'œuvrer, et pas que à nos 3-4 petites femmes qui se battent en duel dans les hémicycles. C'est bien évident que ce n'est pas elles qui vont tout révolutionner, même si elles se donnent à fond, même si elles essayent de faire tout ce qu'elles peuvent.
Et c'est à nous, en éduquant nos enfants, ça j'en reste persuadée, que l'on va arriver à faire changer les choses et qu'ils vont nous écouter. Alors on va faire encore une petite pause musicale. Alors là, elle est un petit peu plus rigolote que la précédente. Cette fois-ci, c'est Amélie Les Crayons. Et puis, on va parler de l'épissotière. Et là, ça va rappeler plein de souvenirs à certaines d'entre nous, puisqu'on sait qu'il y a des choses désagréables là aussi, où les messieurs ont beaucoup de mal avec ça aussi.
Il y a beaucoup de travail là, dans ce domaine-là.
Alors vous êtes toujours sur Couleur FM 97.1 dans votre magazine Tout Feu, Tout Flamme, et nous parlons de la l'égalité entre femmes et hommes à l'occasion de la 5e édition de la quinzaine pour l'égalité hommes-femmes qui est organisée par la région Rhône-Alpes du 3 au 17 octobre 2015. On écoute donc Amélie Les Crayons.
Quand tu vas aux toilettes, est-ce que tu peux lever la lunette? Et si possible, viser le trou, histoire qu'il n'y en ait pas de partout. La petite brosse à côté, quel mystérieux objet. Tu ne dois pas savoir ce que c'est, tu ne l'as peut-être jamais remarqué. Tu as aussi le droit de tirer ce qu'on appelle la chasse. Parce que je t'assure qu'après toi, il y a toujours une fille qui passe. Tu peux aussi te laver les mains si tu dois saluer quelqu'un, peut-être éteindre la lumière si tu sais faire. Quand tu pars des toilettes, est-ce que tu peux baisser la lunette? Y en a marre des acrobaties, nous on voudrait juste s'asseoir. Bien sûr qu'on vous envie d'avoir qu'à baisser votre braguette, mais qu'est-ce que tu veux mon petit? La nature est ainsi faite. Tu vas aux toilettes, est-ce que tu peux lever la lunette? Ou bien ce que t'as qu'à faire, c'est de choisir l'épissotière. Si par hasard il n'y en avait pas, il y a toujours un arbre quelque part qui attend dans la pluie, dans le froid, que tu marques ton territoire. Et pendant ce temps-là, nous on restera les princesses de ces petits endroits. On viendra poser nos fesses. Enfin, on se laissera aller à rêver d'un monde meilleur où tout le monde s'aime, où c'est la paix. On baignera dans le bonheur. Quand tu vas aux toilettes, tu vas me la lever cette lunette. Je vais t'apprendre ce que c'est. Et puis tu vas brosser, brosser, jusqu'à ce que ce soit parfait. Et si tu le fais pas, je te la fais bouffer. Est-ce que c'est clair?
Voilà, c'était les Amélie Les Crayons, le titre Les Pissotières. Et ça rappellera certainement beaucoup de choses à beaucoup d'entre nous, les femmes. On arrive au terme de cette émission. Alors, on voulait aborder encore un sujet qui nous a un petit peu fait rire avec Valérie, c'est le sport. le sport.
C'est un grand moment de solitude, voilà.
Alors, tous ces messieurs qui regardent le foot. Alors, il y a des femmes qui aiment le foot, il y a des femmes qui aiment le rugby, ça j'en suis persuadée. Mais après...
Ah non, mais moi j'adore le rugby. Non, mais c'est pas... En fait, c'était assez drôle parce que les jeunes parlaient plus d'activités sportives, en fait. Parce que moi, c'est pas compliqué pour moi de regarder un bon match de rugby derrière la télé. J'avoue que j'apprécie des bons joueurs, hein, bien sûr. Mais en revanche, c'est vrai que le sport, c'est pas forcément ma tasse de thé. Alors j'en fais, mais néanmoins, c'est quand même plus une obligation pour se sentir bien dans son corps et entretenir son corps qu'une réelle nécessité dans mon esprit, quoi. Je préfère lire un bon bouquin. Après, voilà, quoi. C'est vrai que la femme... Moi, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup qui sont sportives. La preuve, c'est que dans tous nos sports, on a des grands athlètes, hein, femmes, qui ont été vraiment géniales, notamment une petite pensée pour la jeune femme, la nageuse qui est décédée dans un crash d'avion. Là, cette jeune femme, elle avait une carrière fulgurante et c'est une vraie sportive aussi. Donc, des femmes sportives, il y en a plein. Après, dans le quotidien, est-ce qu'on peut gérer tout ce qu'on a à gérer en tant que femme et se donner le temps et l'énergie de faire du sport, là, j'en suis beaucoup moins sûre.
Alors, il y a une dernière problématique que je voulais aborder, c'est la féminisation des titres. Là, j'ai pareil, dans une des conférences à laquelle j'ai assisté à la région Rhône-Alpes, on parlait de égalitarisme ou féminisme. Mmh. Moi, je serais plutôt égalitariste que féministe, parce que féministe, ça, des fois, ça engendre des choses négatives. Moi, je suis pour l'égalité sur tout ce qu'on pourra être égal entre hommes et femmes. Après, quand on nom a donné aux différentes fonctions, souvent on ajoute un E, par exemple à hauteur, si c'est une femme on mettra un E, docteur on peut mettre un E, parce que doctoresse c'est pas très joli, donc il y avait une des journalistes qui était présente qui disait, moi j'aime pas qu'on m'appelle auteur, je veux qu'on m'appelle autrice. Alors après, bon, elle me dit il fallait qu'on s'habitue à mettre des trisses partout, quoi. Mais c'est pareil, c'est une habitude peut-être, effectivement. Moi, à l'oreille, je trouve ça moins joli.
Dire une auteure et pas un auteur.
Voilà, hein. Donc Madame la Ministre, j'aimerais bien que ça ne soit pas une faute de français, etc.
Ah oui.
Parce qu'on a aussi toutes ces choses-là. Quand on dit un docteur, on a du mal, souvent on dit doctoresse. Bon, moi j'ai un peu de mal avec doctoresse, je préférerais Madame la Docteure.
Oui, on dit plus facilement mon docteur que ma doctoresse, effectivement.
Donc là aussi, il y a tout ça à travailler. Sur la féminisation dans la langue française pour que chacun retrouve sa place dans ce domaine-là.
Alors je dirais qu'on est capable de modifier tous les ans le petit Larousse, d'introduire des mots dans le petit Larousse. Pourquoi justement ne pas oser introduire ce genre de choses, hein?
Mais bon, qui est-ce qui fait le Larousse? Est-ce qu'il y a un comité paritaire avec des femmes et des hommes?
Je ne sais pas.
Mais bon, là aussi, c'est encore de vastes questions. Mais
c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Moi, j'en suis convaincue, ça se fait dès la petite enfance. C'est un mécanisme qu'on doit faire entrer dans la tête des tout-petits pour supprimer les différences entre déjà un garçon, une fille, ne pas effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, avoir des livres roses, des livres bleus dans une bibliothèque. Ça commence par là. Enfin, moi, j'ai jamais eu ce souci chez moi avec mes enfants. Effectivement, on n'a jamais eu ce problème de garçon-fille. On peut faire, on peut pas faire. Non, on a évolué. Et même dans mon enfance avec mes parents. Au sein du couple de mes parents qui aujourd'hui sont âgés de 80 ans, j'ai jamais vu de différence homme-femme. Ma mère travaillait autant que mon père et vice-versa, à la maison comme à l'extérieur. Donc voilà, effectivement, à l'enfance, on doit inculquer les choses dès le départ.
Et puis aussi dans le choix des jouets, si un garçon a envie d'avoir des poupées, ne pas lui dire mais t'es une fille. Et si une fille a envie de jouer avec des voitures, ne pas lui dire qu'elle est un garçon manqué. Ça commence à la base dans nos écoles, dans nos maternelles. Et ensuite, nous, en tant que parents, la petite fille, elle n'est pas forcée d'être habillée en rose. Si elle aime le rose, tant mieux, mais elle peut être habillée en bleu. Et puis pourquoi pas, maintenant, on voit dans la mode des hommes qui mettent des chemises roses, des pulls roses.
Rose-violet, bien sûr, voilà. C'est courant. Alors, par contre, moi, j'ai souvent entendu des gens dans la rue dire « Ah, oh, une chemise rose, c'est un PD, voilà. Hein, » C'est le genre de truc qu'on va balancer, les clichés. Bon, ça choque, hein, je suis désolée, j'ai parlé crûment, mais c'est un peu ça, c'est carrément ça, quoi. Donc, c'est vraiment des clichés. clichés, oui. Oui.
Voilà, donc on aura essayé d'apporter notre pierre à l'édifice. On a parlé avec notre cœur, notre tripes,
oui.
Voilà.
Notre vécu aussi.
Notre vécu aussi. Hein? Et puis par rapport à toutes les interviews, tous les gens que j'ai rencontrés durant cette quinzaine de l'égalité pour les femmes et les hommes, il y avait des gens très intéressants qui m'ont apporté beaucoup de choses à me pousser à la réflexion. Alors on aurait aimé avoir des spécialistes pour cette émission, ça a été un petit peu plus compliqué. On sait que la liberté a-t-elle un sexe, c'est compliqué aussi. Il y a certaines professions où effectivement, quand on est une femme, c'est un petit peu plus difficile, notamment dans la photographie, le journalisme. Souvent, ce sont plus les hommes qui sont... et encore, ça se féminise. Il y a des professions qui se féminisent et puis d'autres... Alors là, j'ai eu aussi un débat avec un lycéen qui fait de l'aide à la personne. Mmh. Et il m'a dit que lui, il était discriminé parce qu'il était un homme.
Bien sûr.
Et qu'on lui a refusé certains emplois parce qu'il était un homme. Et qu'on ne voulait pas d'un homme pour s'occuper de la personne. Et la réaction qu'il a eue, elle est très belle. C'est qu'il a dit, mais pourquoi, à la limite, un gynécologue ou un docteur n'aurait pas le droit de s'occuper du corps d'un homme ou d'une femme et que moi, en tant qu'homme, je ne peux pas m'occuper d'aider... être un assistant de vie avec une personne.
Mais la discrimination, elle est partout. Hein. De toute façon, c'est bien pour ça que ce qui est important, c'est d'en parler, d'en débattre, de s'écouter les uns les autres, et puis d'essayer de monter petit à petit une société qui tende à aller vers l'égalitarisme. Parce que, bon, je dis qui tende, parce que c'est vrai que le chemin est encore malheureusement bien loin. C'est un petit peu comme en philosophie, ce monsieur qui monte sa boule jusqu'en haut de la montagne et qui à chaque fois revoit sa pierre retomber en bas de la montagne. C'est un petit peu ça, mais on va y arriver.
Un chemin semé d'embûches. Ouais. Alors on va terminer cette émission en musique avec le coup de cœur de Valérie.
Ah ouais, ça c'est mon petit chouchou, c'est Charlie Tango. Nous sommes allés le voir avec Véronique lors du superbe spectacle que nous a donné Irma aux abattoirs. Et là on a rencontré en première partie un Charlie Tango, un jeune Lyonnais plein d'entrain, avec des très belles chansons, des beaux textes, de la belle musique, qui me fait penser un petit peu à Chédid, Chélère. Enfin, c'est un petit mélange. Et il va nous chanter Carnage avec une autre chanteuse qui est lyonnaise, je crois, d'origine aussi, qui s'appelle Buridan. Écoutons-les, Charlie Tango et Buridan.
Retenez ce nom et puis si vous avez Facebook, allez vite voter parce que il est sur un concours.
Il est sur un concours, les Jeunes Talents 2015. Allez vite voter, il lui manque pas grand-chose, il est deuxième pour l'instant. Il faut qu'il soit le premier.
Alors on se dit à très bientôt, Valérie.
À très bientôt, Véronique.
On croit à l'égalité femmes-hommes.
On y croit, mordicus.
On se laisse en concours. Compagnie donc de Charlie Tango avec Carnage.
Au revoir.
Au revoir.
Tu ne pourras jamais dormir, car dans tes draps il y a le pire, celui qui s'accroche à tes doigts. Une sangsue qui reste là. Toi tu sais bien que tu domines, que ton cœur n'est pas en famille. Lui qui s'emballe au moindre bras, comptant pour le sortir de là.
Il a tout fait pour te plaire. Il veut décrocher l'univers. Tellement qu'il s'est perdu dedans, qu'on le reconnaît plus trop vraiment. L'autre il a mal car il le sait, que sa belle cherche à négocier la trêve au carnage qui les guette, cet abandon qui se veut honnête. Des reproches qui s'entassent, en d'autres termes, oui, on s'encrasse. Déçu, il est un peu trop tard. On pense autant qu'on se ramasse. Jouons les sourds, devenons glace. Le temps fera bien son affaire. C'est un peu plus vivant comme ça. C'est un peu plus vibrant des fois. ce jour retire ton bras. C'est un peu plus vivant comme ça. C'est un peu plus vibrant des fois. Il fait si chaud, retire ton. C'est la foudre qui se voulait belle, éternelle, qui nous emporte loin des foules de la jeunesse universelle. Maintenant nos poings sont tous liés, on n'avance plus sur les rochers. Autant se dire que l'on s'y jette, autant se dire que l'on se jette.
Femmes, le magazine des femmes,
mais pas que,
sur Couleur FM 97.1 avec Véronique
et Valérie.
Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée.